Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 190. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Quand j'étais en école de commerce, je n'ai pas eu de cours de psychologie. Et autant j'ai adoré mes études et mon école, coucou l'EM Normandie, autant je n'ai jamais compris pourquoi aucun cours de psychologie ne nous était proposé. Parce que, soyons clairs, il n'y a pas de bon marketing sans psychologie. Ou en tout cas, la psychologie est présente dans à peu près toutes les étapes de la réflexion marketing. Comprendre ses clients, cibler ses clients, parler à ses clients, faire agir ses clients, bref, la psychologie est clé. J'étais tellement convaincue que j'avais demandé à une copine qui était en fac de psycho de me photocopier ses cours. Alors oui, à l'époque, pardon, on photocopiait les cours. Bon, ça n'a pas duré longtemps, j'ai évidemment très vite décroché, hein, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais c'est un sujet que j'ai toujours trouvé passionnant. Alors quand j'ai fait la connaissance de Mathieu de Romblay, j'étais trop curieuse pour ne pas lui demander de venir sur le podcast du marketing nous parler de psychologie appliquée au marketing. Mathieu est psychologue et entrepreneur. Rien que son profil est plein de promesses. En discutant, il m'a expliqué qu'il existait des personnalités types qui permettaient de prédire les comportements et que ces personnalités ne sortaient pas de l'imaginaire de marketeux un petit peu trop zélés, mais bien de nombreuses études scientifiques. Là, ça m'intéresse. On va pouvoir travailler un persona de façon scientifique. Ni une ni deux, bien sûr, je lui propose de tout nous expliquer sur le podcast. Je vous propose donc d'accueillir tout de suite Mathieu de Romblay. Bonjour Mathieu, bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle, merci beaucoup pour l'invitation.
Écoute, je suis très heureuse de te recevoir. On discute en off depuis quelques temps, toi et moi, voire un petit moment d'ailleurs, parce que tu as un podcast, toi aussi, qui s'appelle PsychoShot et qui est un podcast, tu vas nous en dire un peu plus, mais qui est un podcast sur la psychologie. Et moi, j'adore la psychologie. Je pense, on en discutait à l'instant, tu es d'accord avec moi, je crois que la psychologie et le marketing, c'est forcément ultra lié parce que le marketing, c'est de la psychologie sociale. Mais on le regarde finalement, je trouve, assez peu sous ce prisme. Et donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler justement de psychologie à appliquer au marketing. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Alors, je m'appelle Mathieu de Romblay, je suis psychologue et j'ai principalement trois casquettes. Je suis le cofondateur de Mindcraft, qui est un cabinet d'entraînement et de formation en psychologie appliquée à l'entreprise. Donc, on forme des managers, des dirigeants ou des collaborateurs sur des sujets comme la communication, la prise de décision, la gestion du stress ou comment améliorer le management. J'ai en effet un podcast de psychologie qui s'appelle PsychoShot et dont le principe, c'est d'aider toute personne à mieux gérer son stress, améliorer ses prises de décision dans des épisodes qui durent 10 à 15 minutes. Et quelques épisodes sont aussi consacrés à des interviews de grands psychologues. Et ma troisième casquette, c'est que je suis tout simplement psychologue-thérapeute. Et donc, j'accompagne des personnes à travailler sur leurs problématiques psychologiques. Donc, ça peut être la gestion de l'anxiété, la gestion du stress, comment trouver du sens, comment résoudre les conflits dans sa vie professionnelle ou familiale.
Un homme bien occupé, Mathieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet étonnamment dont je t'avoue que je n'avais jamais vraiment entendu parler. Ou en tout cas, je ne l'avais peut-être pas verbalisé. Tu vois, c'est le genre de sujet où on sait que c'est là quelque part, mais finalement, on ne l'a pas plus verbalisé que ça. Et quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il s'agit du ciblage psychologique en marketing. Est-ce que tu peux nous dire, Mathieu, ce que c'est que le ciblage psychologique ?
En fait, le ciblage psychologique, c'est le fait d'utiliser les données numériques pour inférer de la personnalité des utilisateurs et derrière prédire leur comportement, et donc notamment dans le cas du marketing, prédire leur comportement d'achat pour leur pousser des publicités qui soient vraiment adaptées à leur personnalité.
Et ça, tu me disais, c'est quelque chose finalement qui est déjà utilisé. Tu me parlais du scandale, on en a beaucoup entendu parler, du scandale de Cambridge Analytica avec Donald Trump. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'était passé à l'époque ?
Oui. Alors en fait, c'est effectivement le ciblage psychologique, c'est quelque chose qui est travaillé dans les équipes de recherche depuis des décennies, mais ça a été exposé au grand jour quand l'entreprise Cambridge Analytica a aidé notamment à l'élection de Donald Trump. En fait, le principe, c'est qu'ils ont analysé des centaines de milliers de comptes Facebook et ils ont essayé de déduire la personnalité des utilisateurs de Facebook à partir de différentes informations qui étaient mises sur Facebook, les groupes auxquels ils appartenaient, leurs j'aime, leurs centres d'intérêt. Et à partir de ça, ils ont pu concevoir des publicités pour promouvoir Donald Trump qui était vraiment adapté à la personnalité des personnes. Par exemple, un des points qui a été découvert par les équipes qui ont décrypté après le scandale, c'est qu'on savait, ça avait été montré par la littérature scientifique, que les personnes qui aimaient l'astrologie étaient plus sensibles aux théories du complot que la moyenne. Et donc, ils ont expressément ciblé les personnes qui aimaient l'astrologie pour les exposer à des vidéos de théories du complot en faveur de Donald Trump. Et donc là, on parle vraiment de manipulation dans le sens où, d'une part, les personnes n'ont pas été informées de l'exploitation de leurs données personnelles et elles n'ont absolument pas été informées du fait qu'elles étaient exposées à des mensonges, en l'occurrence, pour les persuader de voter pour Donald Trump.
C'est super intéressant. Alors évidemment, l'histoire avec Donald Trump, c'est sujet à faire parler, mais on le sait, par exemple, si on parle de Facebook, on le sait que Facebook, avec nos j'aime, avec nos commentaires, avec les choses qu'on regarde ou qu'on regarde pas, etc., a plein de data. On dit souvent que Facebook, Meta, c'est le plus gros data center au monde, ou en tout cas qu'ils arrivent à mieux nous connaître. Même parfois, on a dit qu'on se connaît nous-mêmes, ou en tout cas prédire nos usages avant même parfois qu'on le sache. Il y a une légende urbaine. Alors, je sais pas si c'est vrai. Tiens, tu vas me dire si tu connais cette histoire. Il y a une légende urbaine qui dit que une jeune femme, alors je crois qu'elle était très jeune, était enceinte et qu'en fait Facebook l'avait prédit avant qu'elle-même sache qu'elle était tombée enceinte et que ça avait fait scandale parce que évidemment les parents avaient su que leur adolescente, hein, je crois que c'était ça, avait été enceinte après que Facebook le sache. Donc bref, on lui avait poussé, je sais plus, des pubs pour les couches ou des trucs comme ça. C'est peut-être une légende urbaine, mais il n'empêche que ça montre bien ce grand système qui nous dit que Facebook, via toutes les données qu'on lui donne, qui a priori sont pas forcément des données qui semblent si évidentes que ça. C'est pas parce que je dis que j'aime l'astrologie que j'imagine que je vais voter pour Trump. C'est quand même des choses assez éloignées, en tout cas, a priori. J'ai jamais bien compris, moi, je t'avoue, comment est-ce qu'il faisait avec ces datas-là pour réussir à en déduire des usages. Ce que tu nous dis, c'est que c'est au travers, principalement, j'imagine qu'il y a d'autres éléments, mais c'est au travers principalement de 5 traits de personnalité qu'ils arrivent comme ça à faire des ciblages et qui peuvent induire des usages, c'est ça ?
C'est ça. En fait, la personnalité est riche, complexe, il y a de multiples tendances, mais la plupart des chercheurs en psychologie se sont accordés sur le fait qu'il y a 5 grands traits de personnalité qui ont une influence forte sur la manière dont nous prenons nos décisions, sur la manière dont nous gérons nos émotions, sur le fait qu'on soit proche ou pas des membres de notre famille. Et ces 5 traits, ce sont l'ouverture à l'expérience, l'extraversion, la consciencieusité, l'agréabilité et le névrosisme. Donc, il y a certains des traits qui sont assez connus. L'extraversion, je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est. Après, le névrosisme ou la consciencieusité sont des termes qui sont un peu moins connus, mais qui permettent de déterminer un grand nombre d'actions dans nos vies.
Alors attends, ça c'est intéressant parce que on va détailler ces cinq traits, tu vas nous expliquer quand même, mais là ce que tu es en train de me dire, arrête-moi si je dis une bêtise, c'est que ces 5 traits de personnalité, c'est pas un truc un peu fumeux marketing qui a été sorti du chapeau d'un directeur marketing qui voulait faire bien pour présenter sa théorie. C'est des études scientifiques, c'est backé scientifiquement. On peut dire de façon certaine que ces 5 traits de personnalité existent et qu'on peut les définir, c'est ça ?
Oui, alors évidemment, si j'étais avec des chercheurs, il y aurait quand même à chaque fois des nuances qui seraient apportées, mais il y a un consensus sur le fait que ce sont les 5 traits les plus solides et de très loin. Mais après, c'est comme la mesure de l'intelligence avec le QI. Il y a évidemment des tensions sur l'utilisation du QI, mais tout le monde est d'accord sur le fait que le QI, pour le moment, est ce qui est le plus efficace pour mesurer l'intelligence. Ben là, de la même manière, les 5 traits de personnalité sont le plus efficaces pour approcher cette notion de personnalité qui guide nos émotions et nos prises de décision.
C'est super intéressant. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'alors que moi, j'adore ce genre de choses, hein, tu le sais, et les gens qui écoutent le podcast savent que j'adore tout ce qui est personnel, etc. Très bizarrement, c'est peut-être moi qui suis complètement à la ramasse, hein, mais très bizarrement, j'avais jamais entendu parler de ces 5 traits de personnalité. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, pour nous, Mathieu, nous reprendre chacun de ces 5 traits et nous expliquer à peu près à quoi ils correspondent ?
D'accord, alors je vais le faire rapidement, mais n'hésite pas si tu as des questions sur les traits. Le premier, ouverture à l'expérience. Quelqu'un qui a un haut niveau d'ouverture à l'expérience va être quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert au concept, qui va être ouvert à la découverte. Ce sera un tempérament qu'on décrira comme plutôt curieux, qui va aussi plutôt prendre des risques. Les gens qui sont ouverts à l'expérience prennent davantage de champignons hallucinogènes, vont prendre des risques en moto ou vont chercher des loisirs extrêmes. Alors que quelqu'un qui sera plutôt fermé à l'expérience, donc faible ouverture à l'expérience dans le continuum, va plutôt favoriser la routine, la tradition. Les managers que je vois, par exemple, sur des tests de personnalité, qui sont faiblement ouverts à l'expérience, sont des personnes qui, en général, préfèrent les process bien établis. Quand on leur présente une nouvelle méthode, ils sont en général un peu résistants parce qu'ils ont toujours l'approche de « je veux voir que ça fonctionne dans d'autres équipes avec d'autres personnes avant moi de m'engager dans le processus ». Et ce qui est aussi positif, parce que souvent on dit bah, l'ouverture à l'expérience c'est mieux, pas complètement, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont atteintes de néomanie. Quand il y a quelque chose qui est nouveau, c'est forcément mieux, et ce n'est évidemment pas le cas. Donc c'est ça aussi le travers de quelqu'un qui est très ouvert à l'expérience.
Le syndrome de l'objet brillant, moi j'appelle ça comme ça.
Alors, en effet, c'est un des points négatifs, et le point important, c'est que chaque trait que je vais décrire a des points positifs et des points négatifs. Il n'y a aucun trait qui est foncièrement mauvais, la seule chose qui serait négative, c'est d'être à l'extrême sur un trait. Jung, un des premiers psychanalystes qui avait étudié la personnalité, disait que en fait, si vous êtes à l'extrême sur un des traits, vous n'avez pas votre place dans la société, vous serez plutôt à l'hôpital psychiatrique, parce que si vous êtes ultra ouvert à l'expérience et que vous êtes incapable de gérer une routine, vous ne pourrez pas vous adapter, et à l'inverse, si vous êtes incapable de tolérer le moindre changement, c'est pareil, vous ne pourrez pas vous adapter. Donc l'équilibre n'est pas forcément au milieu, mais en tout cas, et il faut avoir la capacité de tolérer un peu d'expérience ou de tolérer un peu de routine. Le deuxième trait, ce serait la consciencieusité. La consciencieusité, ça décrit notre tendance à vouloir planifier, nous organiser. Quelqu'un qui a un très haut niveau de consciencieusité voudra toujours, le meilleur exemple c'est les vacances, savoir où il va, planifier les différents horaires, s'organiser, ce sera quelqu'un qui va avoir tendance à davantage économiser, donc être sur le temps long, et qui peut avoir aussi des problèmes si on commence à lui déstabiliser son emploi du temps, alors que quelqu'un qui a un faible niveau de consciencieusité va plutôt être ouvert à de nouvelles choses qui pourraient perturber son emploi du temps. C'est quelqu'un qui n'aime pas prévoir, donc pour les vacances, son modèle idéal, c'est qu'on planifie une destination, on arrive sur place et on voit ce que l'on fait. Et à l'inverse, ça peut le stresser d'avoir quelqu'un qui va lui dire heure par heure ce qu'il faudrait faire. Et donc, ce sont des personnes qui sont davantage centrées sur le moment présent. Et pour la petite anecdote, dans les couples, on a souvent des conflits sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a un homme ou une femme qui a un haut niveau de consciencieusité et un homme ou une femme en face qui a un faible niveau de consciencieusité. Et évidemment, dans des moments comme les vacances ou dans la planification de la vie courante, ça crée des tensions.
J'imagine sur le budget aussi, ça doit avoir des tensions. C'est au niveau de consciencieusité, je veux mettre de l'argent de côté pour être sûr de parer aux problèmes qui pourraient arriver. Et l'inverse, c'est non, je gagne de l'argent, je veux le dépenser parce que je veux profiter de la vie, c'est ça ?
Effectivement, alors il y a d'autres traits qui jouent, mais ça joue beaucoup. Un autre trait qui joue, notamment sur les dépenses, c'est l'extraversion. Alors l'extraversion, c'est un des traits qui est le plus connu parce qu'on l'utilise dans le langage courant. Les personnes qui sont très extraverties sont des personnes qui ont un haut niveau d'énergie et qui, pour se ressourcer, ont besoin d'être au contact d'autrui. Donc l'enfer de l'extraverti, c'est d'ailleurs souvent notre mode de vie professionnelle actuel, c'est d'être derrière son PC et devoir travailler tout seul en télétravail. Les extravertis seuls ont eu une souffrance atroce pendant le confinement parce qu'ils ont besoin de se ressourcer auprès d'autrui. À l'inverse, l'introverti déteste l'open space parce que très souvent, il est aussi beaucoup plus sensible au bruit et aux stimulations et il a besoin pour se ressourcer d'être tranquille. Et je dis souvent qu'un bon test pour savoir si vous êtes introverti ou extraverti, c'est vous êtes vendredi soir, vous rentrez chez vous, vous êtes seul, vous avez prévu de vous regarder un film, le téléphone sonne, quelle est votre réaction ? Est-ce que c'est plutôt chouette, ça va peut-être être une opportunité, ou c'est plutôt « ah merde, je vais peut-être devoir décliner ou je vais peut-être me faire embarquer dans quelque chose alors que je serais bien content d'être tranquille chez moi sous la couette ».
Super intéressant. Ça veut dire, quand tu parlais de l'open space et du confinement, de l'open space et, ou de travailler de chez soi, ça veut dire en fait que toutes ces entreprises qui, à un moment donné, ont dit pour faire cool, oui, tout le monde est en remote, on travaille tous de chez soi, ça marchait très bien pour certaines personnes, pour les introvertis, sont très heureux de travailler chez eux. En revanche, pour les extravertis, ça peut être une vraie souffrance, c'est ça ?
Oui, complètement. C'est une vraie souffrance quand on est extraverti. La manière de récupérer de l'énergie, c'est d'être au contact d'autrui. Et c'est un point important d'ailleurs de penser en termes d'énergie, c'est que l'introverti va pouvoir être au contact d'autrui, c'est juste que ça va lui puiser toute son énergie. Et donc si à la fin de la journée, il n'a pas un moment où il est seul, où il est tranquille, il risque de craquer. Et l'extraverti, c'est l'inverse. C'est qu'il aura besoin pour être heureux dans sa vie, d'avoir des moments où on va dans des bars, où on fait la fête, on est avec plein de gens, et on est dans le contact. L'extraverti aime bien aussi le chit-chat. Et alors que c'est la hantise de l'introverti qui préfère avoir pendant une heure et demie une conversation avec une ou deux personnes.
Super intéressant. Oui, donc l'introverti, on est bien d'accord que ce n'est pas une histoire de timidité. Là, on est en train de parler d'énergie plus que de rapport vraiment aux autres, finalement.
Alors oui, un exemple, c'est qu'on cite souvent Barack Obama parmi les introvertis. Et a priori, on ne dirait pas que c'est quelqu'un de timide. Souvent, les introvertis ont quand même un passé de timide. Parce qu'en fait, naturellement, quand vous recherchez, vous vous ressourcez seul, ça amène dès l'enfance certains types de comportements, mais la timidité est quelque chose que l'on peut travailler et on peut être introverti et n'avoir aucune timidité.
Typiquement, moi je peux te le dire, je suis totalement, en tout cas je me ressens totalement introverti alors que j'ai aucun problème à discuter avec plein plein de gens, d'ailleurs je suis une grande bavarde. Donc bon, ça n'a pas forcément à voir, mais c'est sûr que si tu mets au milieu d'une foule trop longtemps, je vais être totalement épuisée très très rapidement et ça va pas fonctionner. Ok, ça. Donc on a l'extraversion, on a la consciencieusité et on a l'ouverture à l'expérience. Les deux autres, ce serait quoi ?
Donc c'est l'agréabilité et le névrosisme. L'agréabilité, c'est notre tendance à être centré sur les besoins et les émotions d'autrui. Une personne qui a un haut niveau d'agréabilité va être très sensible, très empathique à ce que ressent l'autre et va avoir tendance à chercher à lui faire plaisir par tous les moyens possibles. Donc ça va être en étant sympathique, en lui faisant des sourires, mais va vraiment être connecté à l'autre dans l'échange, là où une personne qui a un faible niveau d'agréabilité va plutôt être centrée sur le fond de la discussion, sur son point de vue. Et donc, une personne qui a un faible niveau d'agréabilité ne va pas hésiter à rentrer dans le conflit. Et je dis souvent, il y a un proverbe que j'aime bien, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent avoir la paix et ceux qui veulent avoir raison. Eh bien, ceux qui veulent avoir la paix sont plutôt agréables et ceux qui veulent avoir raison sont plutôt désagréables. Même si, encore une fois, on peut travailler sur ces points-là. Et quand on parle de faible niveau d'agréabilité, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être détestable au quotidien, mais c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à aller au conflit s'il juge que ce que vous dites n'est pas vrai. Alors que quelqu'un qui a un haut niveau d'agréabilité, même si vous dites des choses qui ne sont pas complètement vraies, il ne va pas forcément vous contredire. Mais à l'inverse, il y a des points négatifs dans l'agréabilité, parce que là, on se dit que ce sont toujours des gens sympathiques. Ce sont des gens qui peuvent avoir tendance à être plus hypocrites. Parce qu'en face de vous, on ne va pas vous contredire, mais si on juge que ce que vous dites est complètement idiot, bah, quand vous ne serez pas là, on va dire bah, quand même, Estelle, elle dit vraiment que des conneries. Donc, il y a quand même des points négatifs aussi à l'agréabilité. C'est la personne qui ne va pas chercher un conflit qui est sain et qui va aussi avoir tendance à être hypocrite, là où les gens qui ont un faible niveau d'agréabilité, ils vont être directs, au moins vous saurez ce qu'ils pensent. Et le dernier point, le névrosisme. Le névrosisme, c'est notre tendance à ressentir des émotions négatives et à prévenir les risques. Les personnes qui ont un haut niveau de névrosisme vont être très inquiets, très centrés sur ce qu'il pourrait arriver de négatif, vont avoir tendance aussi à se tourmenter dans les petites choses du quotidien, là où les personnes qui ont un faible niveau de névrosisme sont plutôt optimistes. Quand il y a une situation qui se passe mal, elles se centrent beaucoup sur la suite, ce qui pourrait advenir de positif. Et on se dit pareil, qu'il vaut mieux avoir un faible niveau de névrosisme, mais quand vous avez un faible niveau de névrosisme, vous vous remettez aussi moins en cause parce que vous ne cherchez pas à retravailler quand il s'est passé quelque chose de négatif, vous cherchez à fuir les événements négatifs et vous faites moins de post-mortem, etc. Et dans une entreprise ou dans une équipe, c'est bien d'avoir des gens qui ont un niveau de névrosisme parce qu'ils vont quand même réussir à identifier ce qui pourrait mal se passer dans un projet. Même si un haut niveau de névrosisme est quand même corrélé à la dépression, à de l'anxiété, etc. Donc c'est quand même un trait qui a une incidence sur notre fonction psychique assez fort.
Alors, attends, je reprends tes cinq points très rapidement. Il y a l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Ce que j'entends quand tu me décris ces cinq points, et tu me dis si je suis dans le vrai ou dans le faux, moi j'ai un peu l'impression qu'on est toutes et tous probablement une espèce de mélange hein, de ces cinq points. On n'est pas que ouvert à l'expérience, on n'est pas à fond sur un point. Tu disais si on était trop à l'extrême sur un point, c'est qu'on aurait a priori des problèmes psychologiques. Mais on est une espèce de mix de tout ça, tout un chacun, avec à des degrés divers et variés, j'imagine, c'est ça hein.
Oui, bien sûr. Enfin, encore une fois, il faut être en capacité dans notre monde moderne de jouer sur tous les tableaux. Et si on est inquiet de rien, on va se mettre dans des situations extrêmement dangereuses. Donc, il faut avoir une dose d'inquiétude mesurée. Et à l'inverse, si on est inquiet de tout, on ne va pas sortir de chez soi. Donc, de toute façon, l'équilibre repose sur notre flexibilité. En fait, en psychologie, la grande problématique sur laquelle je travaille quand je fais des thérapies, c'est la rigidité. C'est quand on est incapable de sortir d'un mode de fonctionnement. Mais là, en fait, ce qui ressort, c'est qu'on a des préférences. Et c'est important de connaître ces préférences parce que si on sait qu'on est introverti, si on sait qu'on a un faible niveau d'agréabilité, il y a certaines situations où il ne faut pas se mettre ou alors il ne faut pas se mettre trop longtemps. Si on a un faible niveau d'agréabilité, il va falloir travailler sur comment j'arrive à exprimer mon désaccord de manière positive. Donc, ça nous aide aussi à nous entraîner à développer des compétences. Là où quelqu'un qui a un haut niveau d'agréabilité va plutôt devoir se centrer sur apprendre à exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il pense face à autrui. Donc ça nous aide aussi, donc c'est important de le connaître tôt dans sa vie, parce que ça nous aide un peu sur ce qu'on devra travailler pour être à l'aise avec les uns et les autres.
Super intéressant. Mais alors d'un point de vue marketing, comment est-ce que je l'utilise tout ça? Parce que tu disais, il y a des préférences, donc j'imagine que d'un point de vue marketing, il va falloir à un moment donné réussir à identifier quelles sont les préférences de notre audience ou de notre cible. Comment est-ce que je peux faire pour identifier ces fameuses préférences?
Alors, il y a plusieurs manières d'identifier les préférences. Si on a un lien direct avec ses consommateurs et qu'on a la possibilité de leur envoyer des questionnaires, ça reste quand même la méthode la plus simple et la plus fiable, puisqu'il existe des questionnaires de Big Five. Alors, les plus grands font plusieurs dizaines de questions, voire 150 questions, mais même en quelques questions, on arrive à savoir si quelqu'un a plutôt tendance à être introverti et être extraverti, et si c'est pertinent. Dans la vente de notre business, ça peut être intéressant de cibler ça. Ou alors, il y a aussi des manières détournées d'identifier des traits de personnalité, typiquement en fonction des goûts. Et donc ça, c'est la stratégie de Cambridge Analytica. On sait par exemple que les lecteurs de manga ont tendance à être plutôt introvertis. J'avais lu une étude qui montrait que les personnes qui écoutaient Lady Gaga avaient tendance à être un peu plus extraverties. Pareil, les personnes qui écoutent le jazz sont plus sensibles à l'ouverture à l'expérience. Donc, un haut niveau d'ouverture à l'expérience quand vous faites, quand vous écoutez du jazz. Et donc, alors, ça dépend des produits, mais des magasins comme Amazon savent que des personnes qui sont très ouvertes à l'expérience, donc qui aiment le jazz, a priori vont être aussi plus ouverts à la philosophie, par exemple, ce qui est aussi c'est des personnes conceptuelles, donc qui sont plutôt ouvertes à l'expérience. Donc, c'est facile pour Amazon, mais quand ils vous recommandent des choses, ils vous recommandent souvent des choses qui sont évidentes. Vous achetez des gants pour le bricolage, ils vont vous recommander un super marteau. Mais ils peuvent aussi se dire, tiens, j'ai déduit certains points sur sa personnalité, donc c'est quelqu'un qui sera peut-être ouvert aussi à la lecture de tel type de livre qui n'a rien à voir avec le bricolage, mais avec ce que j'ai analysé de sa personnalité, ça pourrait correspondre. Donc c'est là-dessus qu'on peut utiliser. Donc c'est savoir, d'une part, quels sont les traits de personnalité qui peuvent être pertinents dans le cadre de mon offre. Et un des exemples, par exemple, c'est Hilton, mais qui propose une offre très large. Donc Hilton, une grande chaîne d'hôtels, comme Accor, mais aux États-Unis, et qui s'est centré en fait sur le ciblage psychologique pour toute une campagne de marketing. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient gagné un prix pour cette campagne de marketing. Ils avaient interrogé leurs utilisateurs sur leurs différents traits psychologiques en leur expliquant la démarche pour après leur concevoir un voyage qui répondait à leurs besoins et à leur personnalité. Et donc typiquement, les gens qui avaient un haut niveau de névrosisme, donc qui étaient plutôt inquiets, ils avaient insisté sur des ventes de packages tout compris, d'assurance qui prévoyaient tous les risques. Les gens qui étaient plutôt extravertis, ils leur avaient poussé des destinations, mais aussi un ciblage en termes de photos, de vidéos qui leur étaient envoyées, où on voyait les endroits où sortir, les bars à cocktails, etc. Et donc même dans les photos qu'on leur présentait, on leur mettait plutôt en avant ça. Donc il y a la première partie qui est identification des traits de personnalité de l'audience, et après la deuxième partie qui est plutôt dans la communication, comment je peux faire en sorte que des personnes qui ont ce trait de personnalité se reconnaissent bien dans l'usage de mon produit.
Ouais, c'est ça, c'est t'as vraiment les deux angles d'utilisation, c'est bien cibler mon audience, ce que Cambridge Analytica typiquement, et segmenter ma com pour parler vraiment avec les bons mots, avec les bons thèmes, avec les bonnes images à mon audience. Donc c'est en fait ultra ultra intéressant de pouvoir avoir ce type d'information. Ce que tu disais, c'est que effectivement on peut soit typiquement, je pense que je vais le faire, hein. Sur l'audience d'un podcast, eh ben, on a l'audience en direct, eh ben, on peut proposer un petit questionnaire. Tu disais que tu as des questionnaires énormes qui font 150 questions, alors peut-être pas faire ça effectivement pour nos clients, mais on peut trouver peut-être quelques questions qui vont pouvoir nous orienter. Est-ce que, je ne sais pas, sur Internet, est-ce qu'il y a des ressources gratuites? Est-ce qu'on peut aller trouver des grands types de questions qu'on va pouvoir aller poser pour segmenter, même si ce n'est pas une segmentation parfaite? Comment est-ce qu'on peut faire?
Oui, alors sur Internet, vous avez, pour le coup, comme c'est libre de droit, vous avez les questions qui sont en accès libre. Ce que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait lancer une campagne marketing, c'est pas de chercher à dresser l'ensemble des traits de personnalité des consommateurs, parce que ça n'aura pas forcément d'intérêt et puis ça rend le questionnaire beaucoup plus long. Mais peut-être se dire, pour mon produit, l'ouverture à l'expérience a un fort impact, la consciencieuse aussi, le névrosisme aussi, donc je vais cibler plutôt ça. Et pas chercher les autres traits de personnalité. Peut-être que c'est juste un trait de personnalité qui peut être déterminant. Ça va dépendre des produits, puisqu'il y a des produits qui sont utilisés par tout le monde, mais il y a des produits qui vont vraiment toucher un certain type de personnalité. Et un autre point, c'est aussi potentiellement pour adapter les campagnes marketing. Quelqu'un qui a un haut niveau d'agréabilité va être quelqu'un qui va plutôt être centré aussi sur les autres et sur le regard des autres. Même en psychologie, quand je suis en thérapie avec quelqu'un qui a un haut niveau d'agréabilité, une des voies pour l'aider à changer sur un point qu'elle m'a demandé de changer, c'est pas moi qui décide sur quoi elle doit changer, c'est elle qui me demande de changer, mais je peux l'inciter à penser à ses proches, à quel point ses proches seraient heureux si elle a un haut niveau d'agréabilité, parce que je sais que ce sera un levier de motivation pour faire des efforts, pour aller dans la direction qu'elle souhaite. Parce que parfois, la simple volonté suffit pas, et donc ça aide de se dire que je vais rendre heureux d'autres personnes si je change.
C'est passionnant. Donc on a clairement, toutes et tous, quels que soient finalement nos marchés, hein, c'est ce que tu dis, on a de toute façon intérêt à aller comprendre d'une part, notre produit, notre marché, quel serait parmi ces cinq leviers, peut-être celui qui aurait le plus fort impact sur l'utilisation de notre produit, s'il y en a un. Après, évidemment, ça va dépendre des marchés. Ça, c'est un côté. Et puis, de l'autre côté, si on veut aller creuser, c'est d'aller segmenter. Alors, peut-être rapidement, tout dépend évidemment de nos budgets, de la quantité de personnes qui nous suivent, etc. Mais d'aller essayer de segmenter notre audience pour comprendre comment est-ce qu'on peut leur parler et quels sont les leviers ou les façons de communiquer qui vont être les plus à même de répondre correctement. Je te disais tout à l'heure, par exemple, tu me donnais l'exemple du manga où tu disais les personnes plutôt introverties, les personnes qui aiment les mangas ont plutôt tendance à être introverties. Encore une fois, tu disais, c'est pas une règle absolue, hein, mais si tu as une grosse proportion de personnes qui aiment les mangas qui sont introverties, évidemment, d'un point de vue marketing, ça va être intéressant pour nous. Et moi, je te disais, non, mais d'accord, mais comment est-ce que je fais pour trouver ce genre d'informations? Je suis éditeur de mangas. Comment est-ce que je fais pour trouver lequel de ces grands traits de ciblage psychologique va influer? Ce que tu me répondais, c'est qu'une façon simple de le faire, c'est de poser la question à ChatGPT, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, j'aurais pas pu effectivement répondre il y a 3-4 mois. Enfin, il aurait fallu parcourir à chaque fois la recherche. Mais maintenant, ChatGPT a brassé suffisamment d'études pour offrir des réponses qui sont relativement solides. Alors, il faut lui demander derrière de citer la source, parce qu'il est possible que ChatGPT exagère par certains points ou prenne des sources qui ne sont pas fiables. Mais en effet, j'ai découvert que sur la partie trait de personnalité, il arrivait plutôt bien à synthétiser les recherches. Et donc, on peut lui poser la question. En tout cas, il peut nous aider à réfléchir sur ce sujet-là. Mais en effet, si je suis éditeur de manga, une des questions que je peux me poser, si je veux lancer une campagne, c'est, donc là, si je sais qu'ils sont introvertis, c'est dans quelle autre activité les gens sont plutôt introvertis. Et donc, après, avec Facebook, je peux cibler les personnes qui aiment tel type d'activité et je les cible de manière préférentielle. Surtout ce qui est intéressant, évidemment, si c'est une activité qui n'est pas ultra ciblée, parce que ça voudra dire que les publicités sont aussi moins chères.
Ultra intéressant. Ah ouais, ouais, ça ouvre des portes sur comment faire pour baisser ses taux, ses tarifs sur les Facebook Ads ou d'autres ads d'ailleurs, hein, que ce soit TikTok, LinkedIn ou autre, ça fonctionne de la même façon. Écoute, merci beaucoup Mathieu, ça ouvre, je trouve, des perspectives assez folles. Je vais essayer, alors je vais mal le faire, mais je vais essayer de résumer en quelques phrases tout ce que tu nous as dit. Pour faire très simple, tu nous dis que il y a un principe de ciblage psychologique qu'on peut utiliser en marketing avec 5 grands traits de personnalité. Ces 5 grands traits, c'est l'ouverture à l'expérience, la consciencieusité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Alors, l'ouverture à l'expérience, c'est plutôt des gens qui sont ouverts à la découverte, qui sont curieux et qui peuvent ou qui aiment prendre du risque. La consciencieusité, c'est plutôt des gens qui aiment s'organiser, savoir où ils vont, voir sur le long terme, le temps long. L'extraversion, ce sont des gens qui vont aller puiser leur énergie auprès d'autres personnes. L'agréabilité, eh bien, ce sont des gens plutôt empathiques, qui sont centrés sur les besoins des autres et qui aiment faire plaisir. Et le névrosisme, ce sont des gens qui vont ressentir plus fortement les risques et qui vont avoir tendance à être plutôt anxieux. Ça, c'est un résumé très, très dégrossi, mais enfin, ça va quand même nous donner des angles. Et ce que tu nous dis, c'est que eh bien, ces 5 grands traits de personnalité, ils vont nous servir beaucoup en marketing, et surtout pour deux choses principales. La première, ça va être de trouver sa cible, d'identifier de nouvelles personnes qui vont pouvoir être intéressées par notre produit, notre service. Et puis la seconde, ça va être de segmenter notre communication, c'est-à-dire eh bien, de communiquer au mieux auprès de notre audience, de la segmenter pour pouvoir eh bien, proposer à certaines personnes une communication qui va lui être adaptée et à d'autres personnes, même pour le même service ou le même produit, modifier cette communication pour répondre au code qui fonctionne pour elles. Alors, ce que je te demandais, c'est d'accord, c'est bien, je dis tout ça, mais comment je fais, moi, pour identifier un trait de personnalité et quel type de marché vont fonctionner avec quel trait de personnalité? Et ce que tu nous dis, c'est que, eh ben, comme souvent en ce moment, il y a un outil très utile qui nous est disponible et qui s'appelle ChatGPT, et que comme tout ça, ça n'est pas sorti du chapeau, mais c'est la résultante de nombreuses études, eh bien, ChatGPT, lui, a eu la possibilité, bien sûr, d'aller se documenter auprès de ses études et va pouvoir nous ressortir des réponses qui finalement sont bien souvent assez judicieuses. Donc, on peut aller poser la question à ChatGPT. Tu nous dis de lui demander d'identifier la source. Comme ça, on est sûr qu'il exagère pas trop les choses. Mais finalement, ça peut être assez simple d'identifier. C'est l'un de ses grands traits de personnalité. Est-ce que ça te va comme résumé très dégrossi?
Oui, je trouve que c'est un excellent résumé et il y avait bien tous les points. Et en effet, je pense que ça vaut largement l'investissement, d'autant plus que s'intéresser aux traits de personnalité, c'est utile dans le marketing, mais c'est utile dans tous les domaines de la vie. Donc, de toute façon, c'est du temps gagné sur plein de choses.
Super intéressant. Écoute, merci infiniment, Mathieu. Si on veut en savoir plus sur le ciblage psychologique, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que tout ça et comment est-ce qu'on fonctionne, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre, Mathieu?
Alors, je vous invite à écouter les épisodes de PsychoShot, qui est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Et donc, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, puisque j'envoie des contenus en lien avec la psychologie. Et sinon, pour toute question, j'ai également mon compte LinkedIn, Mathieu de Romblay, où je poste aussi des résumés de recherche en lien avec la psychologie et je suis disponible si vous avez des questions sur tous ces sujets.
Eh bien, génial, Mathieu, bien sûr, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous écoutez le podcast du marketing, c'est que vous aimez le marketing. Si vous aimez le marketing, c'est que vous êtes intéressé par la psychologie. Allez écouter PsychoShot, donnez-lui de la force. C'est ultra important de comprendre les grands fonctionnements psychologiques pour pouvoir travailler son marketing. Donc, n'hésitez pas, foncez, écoutez Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing.
Merci beaucoup, Estelle.
Merci infiniment Mathieu, nous donner la possibilité d'ajouter des éléments scientifiques et psychologiques pour travailler nos personas. Ben, tu le sais, c'est un peu ma marotte, donc j'adore cette idée. Merci beaucoup à toi. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast du marketing, si vous voulez me soutenir, m'aider à continuer à vous produire des épisodes, eh bien, une très bonne façon de le faire, c'est de partager vos épisodes favoris avec eh bien, vos amis entrepreneurs, vos amis marketeurs ou toute personne d'ailleurs qui s'intéresse à ce sujet du marketing. Allez-y. Partagez vos épisodes favoris, ça me permettra de faire connaître ce podcast au plus grand nombre et évidemment, c'est ça qui va le permettre de continuer sur la durée. Je vous dis à très vite.